ouvrez la porte.
J'entends un bruit bizarre. Je sens quelque chose. Je sens un souffle sur moi.
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Allô, allô. Ah oui, moi on m'entend.
Oui, toi on t'entend.
Ah, micro 1, on entend aussi. Pourquoi micro 2, on n'entend pas ?
Je ne sais pas, peut-être parce qu'il n'est pas en micro 2.
Voyons voir.
Si, si. Ah,
attends,
c'est bon.
Micro 3,
ah, c'est bon. Pour ça.
Oh. Allez, oh là 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 là, mon Dieu.
Bonsoir.
Bonsoir amis auditeurs, auditrices, et bienvenue dans votre bulle du paranormal, de l'ésotérisme, du mystérieux et j'en passe. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 et comme vous l'aurez compris, nous sommes déconfinés. Enfin, nous avons retrouvé les studios qui ont été plastifiés, tout camouflés.
C'est pour ça que
d'où la difficulté,
voilà, de Didi.
Voilà. Mais on va y arriver et puis on va passer un bon moment et ça faisait tellement longtemps que moi je le suis, mais tout y moustillé. Au programme de ce soir, nous allons avoir Marc Auburn à nos micros, enfin à nos micros par téléphone. Et nous parlerons ce soir voyage astral, sortie hors du corps. Vous aviez des questions, je les poserai. Donc ça, c'est bon. Et vous aurez également le plaisir de retrouver votre taroscope du mois avec notre douce Annie. Bonsoir, Annie.
Bonsoir.
Quel plaisir.
Vous me manquiez.
Oui, hein, ça faisait trop longtemps. Mmh. Et puis, c'est vrai qu'on n'avait pas cette facilité ni la technique à la maison pour pouvoir faire nos émissions de notre côté, pour pouvoir les donner. Et voilà. Donc, puis, on aime bien être ensemble. C'est tellement mieux.
Bah oui.
Mais avant tout, avant le taroscope et avant d'avoir Marc Auburn au téléphone, vous aurez donc les news. Je préviens, les news sont rikiki. Même si le confinement a été long, croyez-moi, il ne s'est pas passé de choses très édifiantes de notre côté. Mais on en parlera après, même s'il y a eu des gros dossiers qui bon, sont pas top en fait. Hein. Bref, bref, je ne vends pas la peau de l'ours. Pour radiopropulser cette émission jusqu'à vos oreilles, celles sans qui bah, vous n'entendriez rien, hein, puisque sinon elle n'aurait pas pu monter mon micro.
Voilà.
Miss Didi, bonsoir Miss Didi.
Bonsoir Lily.
Ça va ?
Ça va, ça va.
Voilà, on ne va pas dire que ça fait longtemps. Au micro, si.
Au micro, si.
Ben
voilà.
Ouais, voilà. Ben ouais, parce qu'on guinche ensemble avec Annie et Didi. Pendant le confinement, on s'est fait des trucs. Non, en fait, on ne s'est rien fait du tout.
Par WhatsApp.
Ouais, oui, en visio. Mais je trouve que ce confinement nous a quand même pas mal rapprochés.
Ah, mais
on n'a jamais autant pris de nouvelles de nos proches et de
c'est
nos
ça.
Amis.
Pour ceux qui auront compris, il a été très utile.
C'est vrai. Tout à fait. Bon, avant de commencer, je te laisse, Miss Didi, lancer les festivités musicales avec notre premier morceau.
Et oui, nous allons écouter Grits.
Oui, Grits, c'est ça.
Grits, avec My Life Be Like.
Voilà, Annie, c'est pour vous. Non, mais c'est...
Ah, elle le sent pas bien, là.
C'est une musique pour mettre dans l'ambiance, parce que... Eh oui, si tu bouges, ça grésille. On a du plastique partout. Vous voyez, dans les maisons, des papiers mamie qui sont tout plastifiés, cellophanés.
Ben voilà.
Eh ben, si on touche au plastique, ça fait ce bruit-là. On a l'impression d'être chez nos grands-parents. Donc oui, My Life Be Like, ça va nous mettre bien dans l'ambiance. C'est un petit peu l'état d'esprit qu'on va avoir pour le déconfinement, pour reprendre un petit peu notre vie. Allez, vous êtes sur Principe Actif, vous écoutez The Mystère. Et à tout de suite.
My life be like. Wow, yeah. My life be like. Please go my way like
low-key and staying candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuade us I'm used to. Finding comfort in the zones of clouds and bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning in monsoon and grinning is high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat surround the castle. Stay afloat, catch a second wind, thin is the air I breathe. Teary-eyed nose running, wiping snot on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost at light speed.
Ça me donne envie d'aller à la plage, oui. En voiture, cabriolet, décapotable.
Allez, arrête de rêver, vas-y, les news.
Toi, t'es une passate, ma fille. Allez, hop. Allez, les news. Alors, vraiment petite, hein, pour le coup. Là, c'est la réouverture de l'exposition mystique au musée Mayol. L'exposition « Esprit, es-tu là ?»« Les peintres et les voix de l'au-delà ». Donc, ça se déroule... Ça a commencé là depuis le 10 juin et ce sera jusqu'au 1er novembre. Bah oui.
Bah oui.
Je trouve que c'est tellement raccord. Bah oui. Le musée Mayol rouvre enfin après la crise et va de nouveau faire tourner les tables pour cette exposition. Trois grands peintres sont au cœur de cette expo. Augustin Lesage, Victor Simon et Fleury-Joseph Crépin. Ces trois hommes qui n'ont jamais pris un cours de dessin, qui se sont mis donc à la peinture, poussés par des voix étranges. Ces guides invisibles les ont conduits, eux et tous les autres artistes représentés dans cette collection, à chercher à établir un lien avec l'au-delà à travers leur peinture. Ces tableaux frappent par l'attention portée aux détails, la minutie des compositions et leur symétrie. On retrouve de nombreuses influences dans ces œuvres du 19e et 20e siècle. De nombreux symboles rappellent les religions et les cultures chrétiennes, hindoues ou égyptiennes. Les peintres spirites ont développé un style qui leur est propre. Deuxième petite news. Oui.
Je peux poser la question. C'est où
C'est à Paris, le musée Mayol.
D'accord.
C'est vrai que je n'ai pas précisé l'adresse.
Mais on trouvera.
Oui, c'est...
Paris. Musée Mayol, Paris.
Voilà. D'accord. Et j'ai vu des œuvres, hein, puisque sur le site, et quand on va pour réserver, on voit déjà des œuvres et c'est spécial. Non, non, c'est beau, mais c'est vrai que c'est... Tu te sens un petit peu happé par un truc. Enfin, c'est spécial. Je vous encourage et j'aimerais bien qu'on y aille.
D'accord.
De toute façon, on a plein de choses à faire à Paris. Je vous le dis.
Oui.
On a des trucs à rattraper quand même. Si vous aviez raté la première fois le documentaire L'Empire des Lumières consacré à la passion que certains entretiennent pour les ovnis qui a été diffusé le 17 février sur France 3, saviez, je vous en avais parlé.
Oui.
Eh ben, bonne nouvelle, il est en replay, you know, sur France 3 Région. On dit merci qui ? Merci François, Didi, merci François. France 3 ?
Ben oui, d'accord.
Ah, je suis fatiguée.
Oui, ça se sent.
Je suis encore avec la musique, tu sais. Une petite sortie kiosque. Avec... oui, je dis, on sortait beaucoup. Non, je... La sortie du magazine Icaris numéro 15, qui est sorti le 29 mai dernier. Alors,
Icaris.
C'est parce que on a le grand chef qui m'envoie un texte en même moment. J'y sais, prière de ne pas nous déranger. Merci. Oui, Icaris, le magazine Icaris. Dans ce nouveau numéro, avec son dossier principal qui relate l'histoire d'un programme d'échange extraterrestre avec la planète Serpo. C'est une histoire passionnante qui mérite d'être découverte pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler. Ce numéro aborde également un gros dossier sur le continent perdu de Mu, M-U, tout simple, basique. Ainsi qu'une interview exclusive de Thierry Jamin au sujet d'une découverte extraordinaire qu'il a faite au cœur de la cité Inca du Machu Picchu. Thierry Jamin, je reprécise, découverte des momies de Nazca, les momies tritactiles. Tritactiles, ça fait bizarre.
Mmh.
Bon, c'est pas grave, je rajouterai des lettres plus tard. Scrabble, tu gagnes.
Mmh.
Donc voilà. Ben voilà, ça c'était, je vous avais dit, hein, c'était petite news. Oui, c'est pour le tapis en fait.
Tu l'entends pas, mais il est bien là.
Hein. Ah, il est bien là, oui,
ouais,
il est
reparti.
J'aurais pu mettre d'autres news parce que y a eu un gros buzz sur les réseaux sociaux et un gros emballement. Alors je sais pas si c'était du fait du confinement, les gens ont pété les plombs. Je me suis fait beaucoup d'amis sur Facebook et j'en passe parce que il y aurait eu soi-disant donc un crash d'OVNI à Magé au Brésil près de Rio de Janeiro aux alentours du 12 ou 13 mai. Et donc il y a des vidéos qui ont circulé, voilà, ils sont arrivés, l'armée, donc les gens ont partagé des vidéos, on entendait des coups de feu, enfin c'était, les gens ont vraiment pété un plomb en disant ça y est, ils sont arrivés, on est envahis, c'était des grands êtres de lumière, nanana, bon.
Est-ce qu'ils avaient le gel hydroalcoolique?
Pour rectifier, pourquoi je n'en ai pas vraiment parlé, parce que en fait cette histoire est le cumul de plusieurs faits avérés et qui n'ont rien d'extraordinaire, donc des lumières dans le ciel bleu, rouge, verte, oui, ça c'était des parachutistes qui faisaient des exercices, en plus pendant le confinement, donc bien messieurs. Les coups de feu dans la forêt avec l'armée, oui, parce qu'en fait l'usine d'armement Imbel, qui est juste à côté de Magé, fêtait en fait l'anniversaire de l'usine, que c'est créé depuis 1808. Donc oui, forcément, il y avait des feux d'artifice, des machins. Bon, bah, ça, super. Normal qu'il y ait les militaires. Hein, c'est... Généralement, un site d'armement, tu ne rentres pas comme ça. Hein. Il y a forcément des mecs avec des armes. Ensuite, voilà, il y a eu des photos qui sont apparues sur Google. Oui, regardez, on voit la soucoupe. Non, c'est Google Earth, quand ils ont pris la photo, sur le toit. C'est une tôle d'aluminium, donc forcément, il y a un éclat. Donc, ce n'était pas... Donc, voilà, ça a été plein de choses comme ça. Il y a même eu, en fait, une des fusées chinoises qui s'était donc disloquée, qui devait atterrir, mais plutôt en Afrique du Sud. C'était prévu, hein, de toute façon. Et bon, résultat, il y a un des morceaux qui n'a pas atterri au bon endroit. Bizarrement, il a atterri à côté de Madjé. Donc il y a trois points, il y a trois sites où il y a eu des événements, mais qui ne sont pas en fait ufologiques. Et les équipes ufologiques du Brésil voilà, ont mis un peu la pédale douce. Rajouter à cela un cher monsieur Pascal Trifengi qui a passé une vidéo sur YouTube criant au complot voilà, avec son bel uniforme d'aviateur tout neuf en disant « Moi j'ai des potes dans l'armée, ils m'ont fait survoler le site, il y a bien quelque chose. » Puis après il débriefe dans sa cave. Pour rappel, pour ceux qui suivent ce monsieur, hein, ce cher Pascal qui est haut en couleur, fouillez bien sur YouTube, il y a encore des passages de lui dans « Faites entrer l'accusé », puisque bon, ce monsieur a quand même été accusé de meurtre. Voilà. Donc, pour vous dire que oui, cette histoire est vraiment... Donc, j'en ai parlé quand même. Mmh. Vous me direz, bah oui, tu ne voulais pas en parler. Mais voilà, histoire qu'on me dise, mais tu n'as pas parlé de ça. J'aurais pu aussi parler des classifications, des dossiers de l'US Navy concernant des objets, comme eux disent, aériens non identifiés. Mais là aussi, c'est pas très concret. Et les vidéos, bon, oui, on voit des choses, mais ça n'apportait pas vraiment d'eau à mon moulin. Donc nous verrons, affaire à suivre. Voilà en ce qui concerne mes news, ma chère Didi.
Ok.
Refaisons-nous une petite entracte musicale.
Une petite musicale.
J'ai rattrapé le retard, c'est parfait.
Quelque chose de très actuel avec Camélia Jordana, sans rentrer aucunement dans la polémique. Aucunement, hein.
Non, je vais éviter. Je vais me mordre les lèvres là pendant. D'accord, ok, ça marche.
Voilà. Et facile.
Je ne sais même pas qui c'est.
Voilà. Donc 18h17, on se retrouve juste après cette jeune femme. Et puis, Camélia, j'ai du défrisant, t'inquiète. On s'en sortira.
Pardon.
Je me laisse, je fais facile, je chante. C'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. Quand de haut en bas Satan, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux, prends. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile, tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile, tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer, appelle à ma sagesse, SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux, prends. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile, tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Toi, tu crois que facile, tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse.
Donc Camélia Girona avec Facile.
Respirez à fond.
Principe actif, 102.4 FM.
Plouf,
plouf.
Annie.
Alors, le taroscope du mois de juin. Je vous ai fait un spécial été parce que le Covid machin chose, il y en a. Oh, la casquette.
Oh, c'est clair. Hein, oh bon. Mon Dieu.
Alors, je parle un petit peu du déconfinement, mais voilà. Alors, on commence par le mois anniversaire qui est les Gémeaux.
Et on en connaît.
Il y a le monde. J'ai mis « Waouh, les Gémeaux, belle période estivale avec de nouvelles connaissances épanouissantes. Comme il va faire chaud, vous aurez à cœur de vous découvrir tout en restant dans le cadre. Bel été à vous et éclatez-vous. » Les cancers, le jugement.
Et on en connaît.
Rapidement, vous allez savoir si vous partez en vacances ou si quelqu'un vient à vous. Quoi qu'il en soit, vous allez découvrir des activités nouvelles pour vous, car ces activités sont relativement anciennes, mais reviennent au goût du jour. C'est vrai qu'on voit pas mal de jeux qui reviennent un peu stylisés, un peu modernisés, mais c'est des trucs anciens. Alors, vous allez recevoir des confidences de proches, et ça va bien vous plaire, parce que on va vous faire confiance. Donc ça, c'est très important. Mais ça va toucher aussi votre cœur. Donc, bel été de confidence.
Oh, ok. C'était pas mal. Bravo.
Les lions, la justice. Alors, avec votre souci d'égalité ou d'équilibre, les lions, vous allez passer un été cool, mais ni trop peu, ni trop. Tout sera à la juste mesure pour vous. Vous donnerez autant que vous recevrez. Alors, tout ira pour le mieux. Vive l'été pour vous. Je dis ça parce que les lions, c'est très particulier. Hein. Souvent, ils prennent plus qu'ils donnent. Donc là, s'ils ne donnent pas beaucoup, ben, vous ne recevrez pas beaucoup. Donc, vaut mieux donner.
Donner.
Les vierges. Tempérance. Tout va couler de source pour vous, les vierges. Vous allez passer un été plutôt cool, équilibré, et dans l'harmonie, que demander de mieux? Vous serez apprécié justement par ce côté rassurant. Tout ira là aussi pour le mieux. Très, très, très bel été aux Vierges. Les balances. Mais c'est tempérance aussi. Décidément, l'été sera plutôt agréable et c'est tant mieux. Car la rentrée, je vous le dis quand même, elle ne sera pas au top. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, appréciez chaque jour de cet été qui sera pour vous sous le signe de l'amitié et pourquoi pas de l'amour. Les scorpions, le monde. Pourtant, c'est un signe pas facile, les scorpions. Mais vive le déconfinement pour vous, les scorpions. Mais vous allez profiter du soleil, de la chaleur, des amis, des amours. Enfin, un été épanouissant. Tout en respectant les mesures sanitaires, vous pourrez vous éclater. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Après les scorpions, les sagittaires. Et on en connaît. C'est la force. Seriez-vous un peu rebelle, les sagittaires, après ces quelques mois de confinement? Rassurez-vous, vous pourrez profiter de chaque instant de bonheur avec la famille, les amis, les connaissances qui vous ont tant manqué. Vos efforts seront récompensés et vous vous épanouirez tout cet été. Elle est pas belle la vie? Les capricornes, alors c'est le mât. Là, c'est pas seriez-vous un peu rebelle, c'est seriez-vous un peu en colère, hein, les capricornes, ou un peu désobéissant. Sur le mât, il a un bonnet sur la tête et il n'écoute pas bien. Quoi qu'il en soit, vous allez vivre un été sans vous préoccuper de ce foutu virus. Vous aurez bien raison, il sera toujours temps à la rentrée de s'y intéresser à nouveau. Attention quand même à bien prendre soin de vous et des vôtres. Verseau, le soleil. Vous pourrez peut-être partir au soleil, dans les îles ou un peu plus loin. Mais où que vous passiez cet été, il sera chaud sous toutes ses formes. Waouh, que calore! Rapprochement avec l'être aimé, la famille, tous les ingrédients d'un été digne de ce nom seront réunis. Les poissons! Petit poisson, et on en connaît. L'étoile.
Oh.
Alors là, les poissons, vous allez vivre une période agréable sous le signe de l'harmonie et aussi de la concrétisation de vos espoirs. On ne peut mieux dire. Sous les étoiles du ciel d'été, il y aura la beauté, de la chaleur, de l'amour. N'oublions pas la famille qui pour vous est importante aussi. Les béliers, ça vous convient les poissons?
Moi, je suis contente d'être poisson ce soir.
Moi aussi.
Les béliers, c'est le battleur. Alors, dites donc les béliers, un été studieux ou au travail? Voyons, déconnectez-vous quelques jours quand même pour profiter aussi d'un peu de liberté retrouvée. Mais bon, on ne vous fera pas plier, donc bon courage. Mais vos efforts seront récompensés de toute façon. Et pour terminer, les taureaux. L'impératrice, vous allez rattraper le temps perdu, les taureaux. Vous avez un besoin extrême de recommuniquer, de revoir du monde, de vivre à peu près normalement, quoi. Cet été sera sous le signe de la communication ou ne sera pas. Que de monde autour de vous. Mais en regardant quand même, attention, prenez quelques précautions. Très, très bel été de la communication à vous. Et à tous les signes.
Merci Annie. On va remettre la première chanson.
Non, mais c'est tonique. Voilà.
Oui, tout à fait. Je plains des signes quand même. Non, je plaisante. Oui,
on est dans les temps.
Allez, on va se faire une petite entracte musicale avant de retrouver Marco Burn pour notre Kesako. Qu'est-ce qu'on s'écoute?
Regarde avec Write It.
Yeah, you know, I like it. Allez, 18h presque 30, vous êtes sur Principe Actif. Vous écoutez The Mystère. Eh ben, kiffe ta musique.
Oh, no. came from the glass. Did you kiss your favorite song? Kanye's on. Are you looking into me tonight? Pull it, be close. Just close your eyes, girls. I'm telling you, we gotta go. Won't you take me home? I wanna.
Voilà, c'était donc Regard avec Ride It.
C'est trop bien la radio!
Principe actif 102.4 FM.
Alors, on va bientôt y aller. C'est bon, on y est.
Bonsoir Marc.
Alors, attendez.
Hop, ah ouais, non, c'est bon. Je bonsoir.
Bonsoir, c'est Lily.
Oui.
Bonsoir Lily.
Bonsoir, vous allez bien?
Bah oui, pas mal, et vous?
Bah très bien, merci beaucoup. Bienvenue dans The Mystère.
The Mystère, oui.
Oui, et puis merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir de parler avec vous.
C'est gentil. Donc Marc, vous êtes auteur, expérienceur et on peut dire voyageur multidimensionnel depuis tout jeune. Et
depuis toujours.
Depuis toujours. Et on va poser la première question bateau pour nos auditeurs un peu néophytes sur le sujet. Qu'est-ce que le voyage astral ?
Alors le voyage astral, ça consiste à sortir hors de son corps volontairement. En pleine conscience et en plein souvenir au préalable et au retour de ce que vous avez vécu. Voilà. C'est un petit peu ce que rapporte, enfin c'est complètement ce que rapportent les gens qui vivent des expériences au seuil de la mort, qu'on appelle les NDE ou les EMI. Phénomènes qui surviennent au moment où les gens ont des problèmes physiques en général. T'as un arrêt cardiaque ou quelque chose de cet ordre-là. Et là, il s'agit de le faire volontairement et consciemment. Voilà, mais c'est le même phénomène, en fait.
Alors, volontairement, vous, de par votre expérience, au départ, ça ne l'était pas.
Alors oui, effectivement, tout à fait au départ, l'expérience survenait spontanément. Et comme il n'y avait pas de référent autour de moi pour expliquer ce que c'était, j'y pensais constamment, sans savoir ce que c'était. Mais je savais que je me promenais, que je volais, que j'allais ici ou là, chez les voisins, ce genre de choses. Et assez vite, les preuves, je donne un détail, que les preuves matérielles sont arrivées. C'est-à-dire que j'ai eu très tôt des éléments qui montraient que c'était réel.
D'accord. Et donc là, vous avez décidé d'essayer de contrôler la chose.
Alors, en fait, j'ai essayé de la contrôler à partir de l'adolescence.
Ouais.
Jusque-là, ça survenait de manière spontanée, que j'attendais d'ailleurs. J'ai essayé de provoquer le phénomène quand j'ai eu aux alentours de 10 ans. Mais comme je ne savais pas du tout comment m'y prendre, j'ai essayé des centaines de fois sans comprendre comment je pouvais m'y prendre. Donc, c'est qu'à l'adolescence que j'ai compris ce qui se passait et comment on pouvait en fait provoquer la sortir du corps volontairement et consciemment.
D'accord. Dans mes petites recherches et puis dans ce qu'on a déjà entendu parler, beaucoup disent que on le fait machinalement la nuit, en fait, que tout le monde
fait. Alors bon, il y a effectivement parce qu'on est en réalité sort de l'enveloppe biologique, pour la plupart des êtres humains, enfin en tout cas dans ce monde-ci, ils sont dans l'état de rêve, dans une espèce d'état de sommeil qui fait que ils se souviennent mal ou pas du tout de ce qui leur est arrivé. Et c'est ce qu'on nous on appelle quand on est conscient en dehors du corps et qu'on rencontre ces gens-là, qui sont dans le même état que nous, mais ils sont des rêveurs. C'est-à-dire qu'on peut leur parler une minute ou voire pas du tout, et ils rêvent, ils ne savent pas du tout où ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils font.
C'est pour ça que des fois dans nos rêves, on rencontre des gens, et on se rappelle des visages, et puis... Mais en fait, c'est parce qu'on les a vus.
Oui, voilà, c'est certainement des choses qui arrivent. Des rêveurs pour rencontrer d'autres rêveurs également. Donc, ouais. Les rêveurs ont tendance à aller voir leur famille ou les gens qui sont importants pour eux, professionnellement, etc. Bon, il y a tout un tas de caractéristiques du comportement du rêveur, mais bon, je ne me suis jamais trop étendu là-dessus. C'est pas forcément des gens avec qui il est intéressant d'échanger.
Oui, donc c'est pour ça que des fois, oui, on peut en fait, c'est cette différence qui fait le rêve et le voyage astral en fait.
Voilà. Après c'est toujours une question de vocabulaire. Hein. Mm-hmm. Bon, le voyage hors du corps, c'est dans ma définition, mais bon, ça c'est la mienne. Hein, c'est vraiment être en dehors de l'enveloppe physique, parfaitement conscient et parfaitement au contrôle de ce qui se passe. C'est-à-dire, je veux aller là-bas, je vais là-bas. Et je sais qui je suis quand je suis dans le corps physique. Et quand je reviens dans le corps physique, je me souviens de mon expérience dans sa quasi-totalité. Mmh. Dans les caractéristiques.
Ah oui, voilà, oui, vous souvenez. Oui, parce que bon, il y a des fois, on se souvient de rêves qui sont même perturbants. Mais oui, on se rappelle.
Il s'agit de rêves. Ouais. Alors bon, détailler pourquoi ça se passe comme ça, ça serait un peu long dans une émission comme la vôtre. Mmh. Mais effectivement, il y a des règles précises qui font que un rêve devient un rêve et même s'amplifie en tant que rêve quand on réintègre les différentes enveloppes, l'enveloppe énergétique, l'enveloppe physique.
Oui. Et là, en réfléchissant justement sur les rêves, il existe des fois où on rêve de se voir. Est-ce que ça peut aussi montrer du doigt le fait qu'on puisse être dans des mondes parallèles, se voir dans un autre espace-temps.
Qu'est-ce que vous voulez dire par se voir
C'est-à-dire, on rêve, on se sent sur le haut de son rêve, oui. Et on se voit plus bas, en train de déjà faire une action, d'interagir avec d'autres personnes, des fois avec des membres de sa famille, ou même voir des scènes dans l'Antiquité ou autre.
Alors, bon, les scènes dans l'Antiquité, c'est encore autre chose. Mais il y a beaucoup de phénomènes qui interviennent dans les états modifiés de conscience, comme la vision à distance.
Ouais.
Dans la vision à distance, on va se projeter à partir du... Toujours en restant dans le corps physique. Mais donc, on peut aller visiter n'importe quel endroit de la planète ou ailleurs, d'ailleurs. Mm-hmm. Et c'est des choses qui ont été utilisées par différentes armées, comme l'armée russe ou l'armée américaine, sous le nom, aux États-Unis, de remote viewer, des gens qui voient à distance. Ils ont bâti des protocoles qui fonctionnent très très bien d'ailleurs. Vous allez espionner leurs ennemis d'alors.
Oui, c'était pas le projet Stargate.
Le projet Stargate, voilà. Moi j'avais rencontré Mac Monagle, qui était un des leaders du projet Stargate. Et il était très impressionnant, le garçon, vraiment. Hein. Je l'ai vu quelques heures et pour moi c'est un sacré bonhomme.
Ouais.
Donc il y a des gens qui ont surdéveloppé cette capacité-là, mais qui n'a pas à voir avec la sortie du corps. En fait, il s'agit de travailler la capacité de produire des espèces d'extensions d'énergie, comme des filaments, si vous voulez, qui vont aller porter les perceptions. Parce que ce que les gens pensent être les perceptions physiques, en fait, sont des perceptions énergétiques. Mais bon, la science avancera pas à pas pour découvrir ça.
Oui, donc
voyageurs sont au courant de ce qui se passe.
Oui, donc en fait, ça n'a rien à voir avec une sorte de bilocation.
Non, pas du tout. C'est exactement comme si vous aviez une caméra avec 32 km de fil. La caméra, il se baladait beaucoup plus loin. Vous avez simplement, vous êtes bien localisé là où vous êtes, toujours au même endroit, mais vous avez la caméra qui est loin. ou alors par Wi-Fi, si vous voulez. Donc, c'est une exportation des perceptions, mais pas de la personne, vous voyez, la vision à distance. Mm-hmm. La personne, elle reste localisée dans le corps physique.
D'accord.
Même si, quelquefois, les sensations, et les impressions et les renseignements sont tellement précis et intenses que la personne a l'illusion d'être à l'endroit où elle est. Mais quand on connaît la différence entre... Quand on a vécu les deux, hein, et un certain nombre de fois, on fait parfaitement la différence entre la vision à distance et le voyage hors du corps.
D'accord. Bon. C'est quoi le but en fait du voyage astral? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre?
Vous pouvez absolument en apprendre l'essentiel de la vie, c'est-à-dire ce que vous êtes en réalité, ce que vous êtes venu faire ici, qui vous êtes en réalité, et après vous allez à l'infini qui s'ouvre devant vous pour apprendre tout ce que vous pouvez apprendre à chaque voyage, c'est-à-dire ça part dans toutes les directions, il n'y a pas de limite. Chaque voyage est une découverte fondamentale. Et on est comme à chaque fois comme un enfant qui découvre le monde.
Mmh. Voilà. Ça fait rêver.
On comprend vraiment qu'on est qu'on ne sait rien, mais on comprend vraiment. Hein. À chaque sortie, on comprend vraiment qu'on ne sait rien.
D'accord. Annie avait une question pour vous.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je suis passionnée par tout ce qui est vie antérieure. Oui. Donc, quand on fait ce genre de voyage, comme vous dites, on peut savoir qui on est, mais est-ce qu'on peut savoir qui on a été?
Alors oui, tout à fait, parce que quand on fait un voyageur du corps de manière consciente, hein, lucide, avec la mémoire, on va progressivement, c'est un phénomène qui s'installe également après la mort du corps biologique, on va progressivement récupérer toutes les informations qui normalement sont à notre disposition parce que c'est le fondement de ce qu'on est. Mmh. Donc plus les voyages se multiplient et plus ils sont longs, plus on va accéder à cette mémoire de qui on a été dans le monde physique, hein. Par exemple, on va prendre les incarnations terrestres, mais quand la mémoire s'étend, elle va aller bien au-delà. Donc, effectivement, de manière spontanée, les voyageurs, hein, ceux que je désigne comme étant les voyageurs, c'est des gens qui font de manière fréquente et répétée, et volontaire, des voyageurs du corps, eh bien, ils acquièrent petit à petit la capacité, parce qu'elle s'installe naturellement, à retrouver les mémoires avec les détails, hein, c'est pas simplement une impression de « il me semble que j'ai été en Égypte », etc. Non, non, c'est vraiment beaucoup de détails qui sont en quelque sorte téléchargés dans le corps physique au retour. Vous voyez. Donc le voyageur du corps, c'est un des corollaires, c'est-à-dire vous allez avoir effectivement une remémoration par ce biais-là.
D'accord. Et donc, on s'en souvient une fois qu'on revient
Oui, voilà. Oui. Le voyageur se souvient de ce qui lui est arrivé, sinon c'est pas un voyageur, c'est un rêveur.
Oui.
S'il a accédé, et c'est possible, hein, qu'il soit par exemple que son surêtre, c'est-à-dire ce qu'il est en réalité, l'ait amené par j'ai n'importe quoi, il a été en Chine, il a vécu à tel endroit en Chine, il y a 25 siècles ou 40 siècles, eh bien, il aura envie d'aller voir ça, il va s'en souvenir de mieux en mieux, il va aller visiter la ville, voir à quel point ça a bougé, etc. Et comme il va s'en souvenir au retour dans le corps physique va découvrir cette réalité-là. Ah zut, j'ai été chinois.
D'accord.
Chinois.
Oui. Mais est-ce que ça aide? C'est-à-dire, est-ce que c'est comme une thérapie?
Alors, moi, je ne suis pas thérapeute, mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que de temps en temps, ça vous aide, de temps en temps, ça vous apporte une foule de nouveaux ennuis.
Ah oui.
Donc, vous seriez bien passé.
D'accord.
Au niveau du voyage, je voulais savoir si... Donc là, oui, on part sur un plan donc astral, plus énergétique. Est-ce que la vision pendant ce voyage...
Je me permets de vous faire une remarque. L'astral et énergétique, c'est absolument pas la même chose.
D'accord.
Mais bon, reprenons.
Non, mais vous parliez de corps énergétique.
Oui.
Donc, si j'ai bien compris, c'est ce qui se détache en fait de son enveloppe corporelle.
Non. Le corps énergétique, c'est quasiment le corps biologique. C'est la contrepartie la plus subtile du monde physique.
D'accord.
Et on passe notre temps, les voyageurs, on a une page Facebook privée sur laquelle les voyageurs s'expriment, et on passe notre temps justement à se battre avec cette matière énergétique qui est absolument pas subtile et qui est un véritable empêchement à la liberté quand on est sorti hors du corps. Donc on souhaite justement s'en débarrasser et la laisser dans le corps physique, cette matière-là.
D'accord.
Voilà, donc le monde énergétique, c'est pas du tout un monde subtil, c'est le monde matériel, mais il paraît subtil quand on est dans le monde biologique, mais il est, du point de vue de celui qui voyage, il est pas du tout subtil, c'est vraiment de la mélasse et de la boue bien lourde.
Il est limitant.
Ah oui, il est absolument épouvantable. C'est lui qui produit le rêve. Mmh. Mais c'est également lui qui permet l'association entre ce qu'on appelle le corps de lumière, peu importe le nom qu'on lui donne, mais qui est le véhicule qu'on utilise le plus couramment. Et donc le corps biologique, il crée la jonction entre les deux. C'est véritablement la colle qui lie les deux.
D'accord. Merci pour cette reprécision.
Et nous, on se bat en permanence contre cette colle. Pour
recadrage. Oui, oui.
Alors, excusez-moi, j'ai coupé votre question. Alors,
non, mais ça ne l'empêche même pas de toute façon. justement, je voulais savoir quelle était la vision, en fait, quand on voyage. Est-ce que c'est la même, justement, quand on est dans notre monde physique? C'est-à-dire, je vois ma lampe, mon téléphone, de telle couleur, machin. Est-ce que les couleurs changent?
Les couleurs changent. D'abord, vous avez... ne serait-ce que dans le monde physique, vous avez une capacité de vision qui est très supérieure à celle de votre œil norme physique biologique. Vous voyez, vous avez distingué des choses que vous ne voyez pas avec vos yeux biologiques. De la même façon, certains oiseaux, certains animaux sont capables d'avoir des perceptions d'un objet ou d'une feuille ou d'un congénère. Beaucoup plus complète que la vôtre. Vous allez voir, je dis n'importe quoi, une espèce de gris cendré, et lui avoir un florilège de couleurs dans ce gris cendré. Vous voyez. Donc, les capacités humaines, elles sont ce qu'elles sont, elles sont adaptées à la biologie, ce qui était nécessaire pour survivre. Donc, quand on quitte le corps physique, on a des capacités qui sont nettement supérieures. Alors, je peux vous en parler pendant une heure de ça, mais ça va vous bouffer toute l'émission. Mais déjà, la richesse, même dans le monde physique, la richesse, la palette de couleurs que vous pouvez distinguer est beaucoup plus grande, premièrement. Deuxièmement, on y va, hein, on rentre dans les détails. Deuxièmement, la vision n'est absolument pas limitée aux yeux, à l'équivalent des yeux. Dans le corps de lumière, vous avez des yeux, hein, mais vous pouvez très bien vous en passer parce que vous voyez votre capacité de percevoir des images, hein, la vision, donc, n'est absolument pas localisée à quelque partie que ce soit du corps de lumière. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez regarder vous pouvez tout voir avec le dos de votre main. Ou un millimètre carré dans le dos ou en dessous de votre pied, vous voyez. Donc les perceptions dans le corps astral ne sont pas localisées à un organe.
D'accord.
Elles existent absolument partout. C'est aussi pour ça qu'on voit à 360 degrés. On voit dans toutes les directions en même temps, sans aucun effort.
Ok.
Et attends, je continue, si vous avez posé une question, je vais être plus précis encore. Et, c'est vraiment la conscience qui va déterminer ce que vous voyez. C'est-à-dire que vous allez, j'ai n'importe quoi, vous avez un rocher à 500 mètres de vous. D'accord ? Ouais. Sans bouger de l'endroit où vous êtes, vous voulez voir ce rocher. Ouais. Eh bien, vous allez le voir simplement parce que votre conscience veut le voir. Vous allez voir de toutes les directions en même temps. Comme si vous étiez devant, dessous, derrière, machin. Et même... comme si vous étiez à l'intérieur, tout en même temps.
Ça fait beaucoup d'infos d'un coup, là.
Oui, mais comme les capacités de traitement des informations du corps de lumière sont très supérieures à celui du corps biologique, ça pose aucun problème. Alors, vous voulez que je vous donne encore plus de détails sur ce qu'on peut voir, ou je m'arrête là?
Non, mais je vais encore.
Alors, la vision, elle est à la fois microscopique et macroscopique. C'est-à-dire que, je vais reprendre l'exemple où vous êtes, sans bouger de l'endroit où vous êtes, vous avez une forêt à 10 km. Mm-hmm. D'accord ? Eh bien, sans bouger de l'endroit où vous êtes, vous faites un espèce de zoom qui est extrêmement puissant. Et vous pouvez, par exemple, aller observer une brindille ou une feuille qui est située à des dizaines de kilomètres de vous. Et à ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez décider d'être microscopique, c'est-à-dire d'aller voir dans la structure intime du brin d'herbe ou de la feuille ou de la fleur. Vous voyez ?
Ok.
Bon, c'est une autre caractéristique. Une autre caractéristique, alors je vais vous en citer quelques-unes comme ça. Une autre caractéristique, c'est que vous n'avez pas de persistance rétinienne comme on la connaît sur le plan physique.
Ouais.
Alors vous savez, quand vous êtes en voiture et que vous roulez à 200, non, vous n'avez pas le droit de rouler à 200, à 130, et que vous regardez le paysage effilé juste à côté de vous.
Oui.
Et ben vous voyez une espèce de traînée. Vous voyez ? Et ben vous n'avez pas ça, même à des vitesses très supérieures, avec le corps de lumière. C'est-à-dire vous allez voir se déplacer très très vite chaque détail, mais simplement ça se déplacera à 130 km/h, mais vous verrez tout distinctement, vous n'aurez pas de traînée. Alors, ça c'est valable jusqu'à un certain point. C'est-à-dire si vous décidez de voyager très 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 vite, il y a un moment vous allez retrouver des traînées, mais vous n'allez pas les retrouver, je vais vous donner un ordre de grandeur, avant 500 ou 600 km/h. Bon, voilà une des caractéristiques aussi qu'on a au niveau de la vision. Ensuite, une autre caractéristique de la vision, quand on change de niveau vibratoire, ce qu'on appelle les différents mondes, plus on monte, plus la palette de couleurs devient grande. Et elle s'élargit par le haut et aussi par le bas, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc au-dessus du bleu, violet, indigo et tout ça, vous avez d'autres couleurs qui se déploient, qui apparaissent. Vous voyez ? Tout comme si vous descendez dans les mondes inférieurs, parce qu'il y a des mondes inférieurs au plan physique, eh bien vous allez avoir le violet, l'indigo, le mauve, enfin tout ça, ça disparaît, même jusqu'au bleu, et le vert commence à disparaître dans les mondes vraiment qui vibrent moins fort que le plan physique. Vous voyez ? Donc voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler, puisqu'on parle de vision, on continue, je vais essayer de faire court. L'intensité des couleurs est prodigieuse. Et les couleurs sont comme vivantes, et vibrent de l'intérieur. Et on se rend compte que dans le plan physique, c'est un monde extrêmement sombre parce que c'est comme un reflet, vous voyez. C'est, la lumière ne vient pas de l'intérieur. Une feuille est verte parce qu'elle reflète le vert et elle absorbe le reste. Et bien, ce monde est gris, en fait. Le monde physique tel qu'on le connaît ici, il est gris, même par un ciel bleu éclatant, il est gris par rapport au monde supérieur où tout vibre de l'intérieur, avec des nuances prodigieuses, des palettes de couleurs prodigieuses. Bon, donc là, les couleurs que vous n'avez pas vues sur le plan physique existent là-bas, dans les mondes supérieurs. Et ensuite, la perception visuelle, et je termine là-dessus, sinon on va y passer la soirée.
Oui, parce qu'on va devoir faire un entr'acte.
La perception visuelle est mixée absolument avec toutes les autres sensations. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la synesthésie, je crois. Ici, c'est-à-dire qu'un goût est une couleur, un son est une couleur, oui, une couleur ça. Est un son, etc. Tout est mélangé, mais en même temps, tout est distinct. Grâce aux capacités extraordinaires de traitement de l'esprit qui contrôle le corps de lumière. Voilà. Donc j'ai fait un résumé très très rapide de la vision.
D'accord. Alors, je garde la petite question d'Annie pour après, parce que là, on va se faire une petite pause musicale. Marc, vous restez en ligne. Oui. Parce que nous, on ne va plus parler.
Voilà, et vous ne nous entendrez plus non plus.
Voilà, et nous, on va danser pendant ce temps-là. À tout de suite, Marc.
Oui, d'accord, j'attends. Pause
musique. Et donc, nous allons écouter Les yeux de la tête.
Bah, ça tombe bien.
Ouais, moi, je l'aime trop, celle-ci.
Voilà, avec Liberté chérie.
Vous restez sur Principe Actif, nous sommes en direct et nous avons Marc Auburn avec nous.
Je me souviens la première fois que je t'ai vu. Quand tu m'as pris sous ton bras, tu m'as dit toi, je te lâcherai plus. On a couru tous les deux, des heures durant. On a couru tous les deux, la gueule au vent. Tu m'as dit c'est pour la vie, si tu m'aimes, peut-être la mort aussi. Allez viens, je t'emmène. J'ai hésité un instant, maintenant je te le dis, car aujourd'hui je suis ton amant, ma liberté chérie.
Lili, ma Lili.
À contre-vent, ensemble et en musique, ensemble et en chantant. Pas besoin de poids levé, d'étendard, de preuve ou de loi. Fou d'amour, mais pas marié, pas besoin de bague avec toi. J'ai la chance de t'avoir, la chance que tu m'aies choisi. Tout le monde couche pas avec toi, c'est pas faute d'envie. Et entre ceux qui ont peur de toi et ceux que tu oublies, allez, on leur fera un peu de place dans ton lit.
Lili, ma Lili.
J'ai traversé tant de pays en criant ton nom,
liberté.
J'ai dormi dans tant de lits en criant ton nom,
liberté.
Je me suis fait tellement d'amis en criant ton nom,
liberté.
Et quelques ennemis aussi, oh liberté chérie.
Oh, c'était donc les yeux de la tête avec Liberté Chérie.
Oh, mon Dieu.
Alors attendez que. Oh non. Excusez-moi. Voilà. Oh, et puis c'est difficile.
Oui, excuse-moi, voilà, excusez-moi, c'est un peu.
Ouais, mais je viens de m'éclater un tympan.
Oui, mais c'est pas facile avec le plastique.
Ah ouais, non, mais j'ai prévenu les auditeurs, voilà, là, avec la crise
on innove.
Voilà. Marc, vous êtes toujours avec nous ?
Je suis là, j'ai bien aimé le titre, la liberté, c'est la chose la plus précieuse.
Oh, oui.
C'est la chose que ressent les voyageurs, c'est une immense liberté.
Ah, ah. Mais c'est ça. Je trouve qu'elle tombait bien. Voilà, pour un après déconfinement, là, il y a
bien joué. Très bien joué, très bonne programmation.
Merci. Alors, je reviens un petit peu, donc, nous revenons à nos moutons. Annie avait une question concernant les non-voyants. Parce que là, on a parlé de couleurs, de vibrations et tout ça, mais pour les non-voyants, c'est possible aussi pour eux.
Oui, évidemment, ils sont simplement non-voyants quand ils sont dans leur corps biologique.
Oui.
Et vous savez, vous avez en Inde, vous avez une espèce d'ashram, je ne sais plus le nom exactement, où on apprend aux enfants, on les prend plutôt jeunes, à voir sans les yeux. Et ça fonctionne vraiment.
Mm-hmm.
Un de mes amis qui a testé le truc avec sa petite fille qui avait 6 ou 7 ans, en 10 minutes, elle a appris à voir les couleurs et même à lire avec les yeux bandés, mais vraiment bandés. Hein. Donc, en fait, la véritable perception, elle vient du champ d'énergie. Donc les non-voyants, alors bon, je fais une parenthèse, hein, donc la véritable vision, elle vient du champ d'énergie, mais malgré tout, une personne qui fait un voyage hors du corps et qui revient dans le corps physique a vu ce qu'elle a vu. Le problème du corps physique, c'est que lui, si c'est un aveugle de naissance, il n'a pas les banques d'informations correspondant à la vision,
oui.
Vous voyez,
oui.
Donc, mais malgré tout, il va y avoir une demande d'installation de l'information dans le cerveau.
Oui.
Et ça peut créer des choses un peu étranges. Ça dépend vraiment de la structure du cerveau de l'autre. Mais vous avez eu également des phénomènes de ce genre-là, des NDE, avec des gens non-voyants qui, effectivement, ont rapporté de la vision, hein,
oui,
c'est-à-dire de la vue.
Mm-hmm.
Voilà, si vous faites des recherches, vous êtes peut-être au courant. Ben, on a exactement le même phénomène. Quelqu'un qui fait des voyages hors du corps et qui est aveugle sur le plan biologique ne l'est plus du tout hein, quand elle est en sortir du corps.
D'accord.
Merci.
Ah ouais, bienvenue.
Bienvenue. l'aveugle. concernant, parce que moi en fait j'ai tellement de questions, si vous saviez, que je tourne mes pages et je me dis mais laquelle je vais prendre, non celle-ci, on va passer d'abord.
Normalement
celle-ci.
On aurait dû prévoir une dizaine d'heures. Hein, et encore,
Alors, blague à part, j'ai commencé à écouter l'interview de 6 heures que vous aviez fait. Mais bon, j'y suis bientôt, je suis bientôt à la fin, j'y arriverai à raison d'une à deux heures par jour.
Oui, elle dure 6h30 la première.
Oui.
Ah ben je ne m'attendais pas à ça, il ne m'a pas prévenu.
Ah oui, mais bon, le sujet est tellement intéressant, il y a tellement, mais tellement
oui,
à dire.
On ne doit pas voir le temps.
Et à découvrir, oui. Donc, là, je ne sais pas, entre les deux, mon cœur balance. Donc, on va prendre celle-ci et puis on rebondira sur l'autre après. Quand vous voyagez, vous rencontrez d'autres personnes, hein, d'autres voyageurs et d'autres aussi...
Des guides.
Les voyageurs, c'est rare, malheureusement. Mais bon, on rencontre un tas de gens, oui.
Des guides.
Alors, les guides, à moi, ils ne viennent pas trop m'embêter parce que je les accueille de manière assez verte. Mais par contre, il y a des voyageurs qui rencontrent très très vite leurs guides, oui, effectivement, ou leurs assistants de développement personnel, multidimensionnel, oui.
Mm-hmm.
Et moi, ils ont tendance à faire avec moi autrement, mais bon, chacun est un cas particulier.
Ah oui, tout à fait.
Et donc, dans ces cas-là, vous rencontrez plutôt qui ? Qu'est-ce qui est plus récurrent dans ces rencontres ?
Ah ben justement, c'est qu'il n'y a aucune récurrence. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est à chaque fois complètement nouveau. Mais bon, on a des typologies quand même dans lesquelles on retrouve, quand on visite le plan physique, on est dans la même dimension que l'endroit où on se parle en ce moment, hein, où il y a Internet et tout ça. Eh bien, on va aller dans les villes, et puis là, soit on a affaire à des dormeurs, soit on a affaire à des gens dans leur corps qui vaquent à leurs occupations. Et très rarement, ça m'est arrivé très rarement, on a des voyageurs. C'est-à-dire des gens qui sont en dehors de leur corps et qui sont lucides. Allez, ça m'est arrivé une poignée de fois, quoi. Ça se compte sur les doigts de la main. Mais bon, c'est la loi des grands nombres, hein. C'est vraiment c'est rare.
Dans certaines interviews, vous avez quand même parlé de rencontres extraterrestres.
Ah oui, mais ça c'est encore une autre catégorie. Parce que pour ces gens-là, pour cette grande catégorie-là, hein, c'est la disposition qui consiste à... Enfin, la connaissance de ces états-là est ordinaire pour eux. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire pour eux. C'est simplement pour une toute petite partie, pour l'instant, dans cette frange de temps de cette humanité-là, qui est un peuple minuscule dans l'immensité du cosmos, pour l'instant, la plupart des gens ne sont pas au courant que ces choses-là sont absolument réelles. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En ce moment, c'est ça.
Alors, quand vous voyagez, donc vous voyagez sur diverses dimensions, mais comment ça se structure tout ça? Est-ce qu'on peut parler de monde? Est-ce que voilà.
C'est comme des étages, mais c'est pas des étages. Mais bon, on est obligé de prendre des comparaisons qui sont très imparfaites.
Oui.
Mais on va se dire que par exemple, encore une fois, c'est qu'une image. Il faut pas s'attacher complètement. Ça donne un ordre d'idée. C'est un peu comme un immeuble qui aurait des fondations qui reposeraient sur le sol, mais qui aurait un nombre infini d'étages. Voilà comment je m'en présente la réalité aujourd'hui. Et nous, dans le monde physique où on se parle en ce moment, on est quelque part dans les premiers étages. On n'est pas dans les étages les plus bas, mais on est quelque part dans les premiers étages. Mmh. Vous voyez ? Et donc, comment on fait la différence quand on voyage en disant ben, « je suis plutôt dans un étage inférieur ou un étage supérieur ?» Ben, on a des repères qui sont assez simples. En fait, à la longue, on finit par les comprendre, ça a été mon cas, même si c'est écrit dans aucun bouquin, on finit par comprendre que plus il y a de lumière, plus il y a de variété dans les couleurs, et plus il y a ce sentiment d'amour présent au cœur de chaque chose, plus on est dans un monde supérieur. Et l'intensité de la lumière, c'est un critère. L'intensité et la variété de la couleur, enfin des couleurs, ça c'est un vrai critère. Ouais.
D'accord.
Tout à fait objectif. Alors après, vous n'avez pas exactement où vous vous situez, entre guillemets, parce qu'il faudrait pour ça des repères, une espèce de carte. Mais en fait, vous savez si vous êtes plus ou moins élevé, vous voyez. Si vous arrivez dans des régions où la lumière est tellement extraordinaire que vous êtes insupportable, vous savez que vous êtes arrivé à votre limite, pour l'instant.
D'accord. Annie, une question.
Oui.
Lève le doigt.
Je suis toujours l'embêtante.
Non.
Non. Parce que c'est très beau ce que vous dites, ça donne envie, c'est extraordinaire, votre vision des choses, etc.
C'est pas ma vision des choses, c'est ce que vous avez trouvé, vous, après la mort de votre corps physique. Hein. Vous avez trouvé la chose, ça ne serait pas étonné. Je veux dire un truc, vous vous souviendrez de cette conversation-là et vous direz, ah ben oui, je l'ai toujours su, ah ben ça me revient maintenant.
D'accord.
Voilà ce que vous direz.
D'accord.
Mais parce que ça, tout ce que je vous explique là, vous le savez.
Oui, mais bon, on n'est pas pressé. Non, je voulais simplement vous demander, quand vous voyagez, comment vous savez qu'il faut retourner dans votre corps physique?
Malheureusement, il est toujours trop tôt pour retourner dans le corps, et c'est très rarement moi qui décide, c'est le corps en l'occurrence,
parce qu'il doit
se réveiller, ou quelqu'un, ou un chat passe, ou un chien me saute sur le ventre, etc. Et je suis ramené, voilà. Donc, et où il y a un phénomène naturel, au bout d'un certain temps, y a un retour. Alors moi, mon record, il est pas tellement fréquent, mais je crois que j'ai fait plus que le tour du cadran une fois quand j'étais adolescent.
Ah oui.
Ouais. Mais donc oui, c'était un très très long voyage. Mais qu'est-ce que le temps, hein? Il faut un chronomètre à côté du corps physique. Mais la perception du temps, elle est complètement différente quand vous êtes dans le corps de lumière. Elle est complètement différente, mais vraiment complètement différente.
Et je pense que Lily avait...
Elle peut s'étirer ou se contracter, par exemple, vous voyez?
Oui, parce que c'est sur le danger. Bon, on lit des tas de choses, effectivement, que des fois, au moment de retourner dans le corps physique, ça pose problème.
Alors, moi, je vais vous dire quelque chose de manière un peu directe, c'est mon style, hein, mais bon... je vais vous dire les choses parce que je suis pas, j'ai pas fait 10 voyages dans ma vie, j'en ai fait des centaines et probablement des milliers.
Des milliers.
D'accord. Voilà. Donc, je suis pas un débutant et je sais de quoi je parle. Les gens qui disent un certain nombre de choses sur le voyageur du corps n'ont jamais fait.
D'accord.
Voilà. Quand ils disent vous allez vous perdre, quand ils disent vous allez être attaqué par des créatures malfaisantes, quand ils disent, enfin, tout un tas de choses qui font peur, etc. Ce sont des personnes qui n'ont jamais fait de sortie consciente et volontaire hors du corps. Peut-être des gens qui ont fait des rêves, peut-être des gens qui ont pris des drogues, peut-être des gens qui ont des problèmes psychologiques graves, mais ce ne sont pas des gens qui ont fait des sorties hors du corps.
Oui,
moi, je fais des sessions, j'ai des étudiants qui réussissent, ils décrivent tous la même chose, ils passent tous par le même faisceau d'expérience. Voilà. Et je peux vous dire que tout ce qui est raconté là, je ne l'ai pas vérifié une seule fois auprès des gens que j'ai formés. Pas une fois.
Non, mais donc,
Papa voilà. rêve.
Donc les peurs, les machins, les trucs. Ou alors on se dit que ces gens-là... Mais je verrais pas l'intérêt d'un voyageur, un vrai voyageur, de faire peur aux autres en disant « Ne le faites surtout pas. Ne le faites surtout pas, vous, c'est dangereux. Mm-hmm. » La joie d'un voyageur, c'est que quelqu'un d'autre expérimente ça. Parce que vous me posiez la question au départ, mais à quoi ça sert ? Mais ça sert... Mais c'est prodigieux.
Ouais.
À quoi ça sert ? Vous comprenez vraiment qui vous êtes. Vous dites « Je suis pas pressé. » Tout à l'heure, vous dites « mais moi, je vous dis un truc, vous seriez pressé. Ouais. » Vous faisiez cette nuit un voyage et, oui. et au retour, et vous dites « Ah, c'est ça ?»
J'ai hâte d'aller me coucher,
oui,
moi.
Oui. Non, quand je dis je suis pas pressée, c'est pas que je suis pas pressée de faire un voyage, je suis pas pressée de partir définitivement.
Mais je parle bien de la même chose.
D'accord.
Vous réviseriez votre point de vue, moi je vous le dis. Voilà.
Non, mais je...
Sans être déséquilibré, sans être suicidaire, sans rien, vous direz, oula, ah c'est comme ça. Oh, ben alors dites-y, vivement les vacances.
Ça change notre perception de la mort, en fait.
C'est une révolution.
J'en ai une tout à fait différente, mais qui rejoint la vôtre, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on est ici bas, on est plus terrien qu'autre chose. Donc, voilà.
Bon, moi, j'ai d'autres questions et je vois le temps défiler et j'aimerais pouvoir aborder tous mes petits sujets, s'il vous plaît, mesdames. Vous parliez justement de vos étudiants, donc vous voyez du monde et donc ça veut dire quand même que tout le monde peut expérimenter ces voyages.
Mais bien sûr, alors je vais vous raconter juste en une minute ma petite histoire par rapport à ça. Moi, j'ai des voyages hors du corps, j'en fais depuis que je suis tout petit, même. À franchement parler, même avant ma naissance. Mmh. Et je m'en suis toujours souvenu. C'est-à-dire, je me souviens du moment, et parfaitement, et je m'en suis toujours souvenu. J'avais 2 ans, j'avais 3 ans, j'avais 4 ans, je me souviens du moment où j'ai rejoint le corps biologique assister à la naissance, participer à la naissance de mon corps biologique, après avoir fait des différents séjours dans le fœtus. Bon. Mmh. Je m'en suis toujours souvenu. L'endroit où j'étais juste avant la naissance officielle. Encore une fois, je m'en suis toujours souvenu. Donc, c'est pas quelque chose pour moi de nouveau. Alors, de quoi on parlait ? J'ai un peu perdu le fil en vous parlant de ça.
Alors,
l'histoire.
Oui.
Pendant des années, je me suis dit qu'on ne pouvait pas apprendre ça aux gens. Mm-hmm. Que c'était qu'une question, on pouvait ou on ne pouvait pas. Et en fait, c'est lors d'un séjour à Nouméa, il y a peu de temps, il y a 3 ou 4 années, qu'une de mes amies m'a dit « Mais tu devrais penser à faire des formations de sortir du corps. » Moi, j'avais déjà été à l'Institut Monroe aux États-Unis, hein, où on écoutait des sons dans les oreilles, etc. Et pour tout vous expliquer, bon, moi, j'étais voyageur depuis toujours, encore une fois, j'étais curieux de voir ce qu'on enseignait au Monroe Institute, en Virginie, aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, j'ai fait une sortir du corps, c'était simplement la veille de commencer tous les exercices. Donc, zéro sortir du corps pendant toute la semaine d'entraînement. Donc, je suis retourné avec le sentiment que, moi, ça marchait sur moi avec mes petites techniques personnelles et que, on pouvait pas vraiment enseigner ça. Et je me suis rendu compte que je me suis trompé il y a peu de temps. En fait, il y a 3 ou 4 ans, je me suis rendu compte qu'on pouvait, parce que je me suis mis à y réfléchir. Vous voyez ? Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que de temps en temps, je voyage et de temps en temps, je ne voyage pas ? Je suis parti de ce principe-là. Donc, quels sont les facteurs favorables, quels sont les facteurs défavorables? Quels sont les mécanismes qui font qu'on est à l'intérieur du corps physique? Quels sont les mécanismes qui font qu'on peut en sortir? Ça m'a obligé à une réflexion, et je vous dis, je me suis creusé la tête. Hein, et un grand nombre d'expérimentations aussi sur le terrain. Hein, c'est-à-dire, je ne suis pas contenté de me dire comment est-ce qu'on sert le boulon. J'ai essayé toutes les clés, j'ai essayé de... Voilà, c'est travail manuel, vous voyez.
Oui, limite la création d'un protocole.
Voilà, j'ai vraiment expérimenté, je me suis inspiré de personne. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui.
De personne. Donc, et de manière concrète, je me suis dit, tiens, voilà, il semblerait que ça fonctionne. Et je suis arrivé, effectivement, à comprendre comment le mécanisme s'opérait. Pourquoi est-ce qu'on restait à l'intérieur hors du corps, par exemple, alors qu'on voulait en sortir ? Je suis vraiment arrivé à comprendre le phénomène. Ce qui fait que maintenant, quand les gens qui font le type d'entraînement réussissent, ils sont sidérés de voir à quel point c'est facile quand ça se produit. À quel point également la conséquence est extraordinaire et prodigieuse. Mais c'est facile. Parce qu'en fait, pour vous expliquer en 2 mots, je vous parlais de la colle. Là. On est véritablement un peu comme dans Matrix, sauf que c'est pire. On est encore plus englué dans le corps biologique. Imaginez que vous soyez pris dans des milliards de filaments.
Ouais.
Voyez, qui vous lie au corps biologique. Vous voyez ?
Oui, oui, oui.
Eh bien, quand vous en sortez, en fait, il y a un de ces filaments qui est un peu comme un filet de miel qui va se constituer. Vous savez, vous plongez une cuillère dans un pot de miel, le miel est assez liquide.
Ça file.
Parce que s'il est pas liquide, vous pourrez pas tirer la cuillère du pot de miel. Vous allez arracher des morceaux. Vous voyez. Mmh. Mais si le miel est assez chaud, il est assez liquide, vous allez emmener un fil. Et ça, c'est la corde d'argent. C'est comme ça qu'elle se constitue. Mmh. Je vous donne une image pour vous donner une image le plus précise possible. Il y a toujours un lien. Et en fait, alors que vous êtes en dehors de votre corps, vous êtes quand même malgré tout, comment dirais-je, le corps biologique est parcouru de filaments d'énergie. La corde d'argent arrive jusqu'à votre corps, celui que vous utilisez, mais il est également, ce corps-là, au moment où vous êtes incarné, est également noyé sous les filaments d'énergie. En fait, il y a une seule et unique structure d'incarnation. Vous voyez ce que je veux dire ? Le corps astral est parcouru de nadis. Lui aussi, tant que vous êtes incarné. Donc en fait, à la mort du corps biologique, c'est l'ensemble de la structure, pas seulement la corde d'argent qui se dissout. La structure énergétique du corps biologique, la corde d'argent et la structure à l'intérieur de du corps de lumière. C'est un seul unique système.
Ouais.
Et ça, il a fallu que j'aille voir en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que la corde d'argent est collée ? Comment c'est fichu ? Donc un beau jour, je me suis dit, il y a des années de ça, je me dis, voyons comment c'est fichu. Regardons. Et j'ai mis les mains dedans, et j'ai regardé, et j'ai vu comment c'était fait. Il n'y a personne qui vous explique ça dans un livre, à ma connaissance. Hein.
Bah,
il y a
non.
Voilà.
Non,
j'ai compris. Non. Donc, on parlait de quoi ? Oui, donc ça, on peut apprendre. Pourquoi ? Parce que en fait, l'énergie de liaison qui vous maintient à l'intérieur du corps biologique, elle fluctue. Et peut même être débordée ponctuellement. Par exemple, vous ressentez une émotion extrêmement vive. Vous êtes au volant de vos voitures et puis vous loupez le virage et puis pendant votre voiture part en dérapage et pendant 2, 3, 4 secondes, peut-être moins, vous avez une émotion tellement forte que vous êtes persuadé que vous allez mourir.
Oui.
Et ben, cette persuasion à elle seule va déborder la gravité énergétique qui vous maintient dans le corps et vous pouvez être propulsé hors du corps parce que vous avez développé une énergie qui était supérieure à l'énergie de liaison, vous voyez ? Et vous avez des choses comme ça qui arrivent. À l'occasion d'une très forte émotion, pas forcément si votre corps est en danger, mais par exemple, vous tombez subitement très amoureuse de quelqu'un, vous pouvez avoir ce sentiment d'être éjecté hors du corps. Ou une intense surprise. C'est pas le fait que vous soyez en danger objectivement, c'est le fait que vous avez produit une énergie qui était supérieure à l'énergie de liaison.
Oui, qui nous dissocie,
Voilà le phénomène. J'ai l'intention de faire une vidéo pour expliquer tout ça, pour qu'un maximum de gens maintenant puissent faire la chose sans passer par des formations.
Oui,
parce qu'il y a des enfants qui vivent ce phénomène spontanément.
Oui.
Et moi, à l'âge de 8 ans, j'aurais bien aimé qu'on m'explique. Donc, moi, j'ai de plus en plus d'ados qui m'écrivent en me demandant de leur expliquer. Donc, je vais leur faire une vidéo. Je vais faire une vidéo pour tout le monde pour vous dire, voilà, pour leur dire, voilà comment ça fonctionne. Et voilà comment vous pouvez arriver à vivre l'expérience vous-même. Donc l'énergie de liaison est fluctue au cours de la nuit. Quand votre corps est en repos, effectivement, l'énergie de liaison diminue au point où à un moment vous décrochez de votre corps physique. Et si vous, à ce moment-là, vous avez de la conscience, vous récupérez la totalité de votre conscience, vous sortez facilement hors du corps. Donc c'est une des méthodes. La méthode, c'est de profiter du moment où l'énergie de liaison est au plus bas. Et un petit coup de pouce et je sors. En ce moment, votre énergie de liaison est très forte, la mienne aussi. Pour sortir du corps, c'est vraiment pas de la tarte. Hein. C'est vraiment, on pourra pas y arriver.
Ben oui, parce que donc ça peut être que la nuit au repos.
Alors, effectivement, les quatre paramètres que j'ai identifiés en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, mais quelles sont les conditions si on veut faire un théorème, quelles sont les conditions ? J'en ai trouvé quatre.
Ouais.
Premièrement, le corps profondément endormi. C'est-à-dire qu'on y est en veille, exactement comme une télé qui est éteinte, mais avec le bouton veille qui est allumé. Voilà. Le corps profondément endormi et normalement un sommeil plus profond que le sommeil ordinaire. Alors, je fais une parenthèse par rapport à ce premier paramètre. Toutes les catégories d'expériences spirituelles ou ce que vous voulez, qui ne passent pas par un sommeil profond du corps physique, sont autre chose que le voyage hors du corps.
Bon. C'est de la visualisation limite.
Voilà, vision à distance et
au rêve,
voilà. Bon, c'est ou même le rêve lucide.
Quoique
le rêve lucide puisse être opéré à l'intérieur d'un corps profondément endormi. Deuxième paramètre, lucidité totale. Totale conscience. Pas un peu de conscience, totale conscience. Et dans la conscience, il y a deux facettes. C'est de savoir où je suis, ce que je suis, être conscient que je suis conscient, mais également avoir la mémoire. La mémoire de qui je suis, même sur le plan biologique, sur le plan terrestre. Troisième paramètre, pour faire une sortie hors du corps, c'est l'intention. Intention de voyager hors du corps. L'intention. L'intention qui n'est pas la volonté, qui n'est pas un effort, mais l'intention.
Ouais.
Et le quatrième paramètre, qui est un peu costaud, mais c'est comme ça, c'est la totale absence, enfin une absence totale d'effort. Parce que l'effort va susciter de la gravité énergétique. Donc il faut se débrouiller pour réunir les quatre paramètres, et si vous réunissez les quatre paramètres, eh bien vous sortez. C'est pas dans 10 ans, c'est tout de suite. Vous sortez tout de suite.
Ouais, ouais. Ouais, parce qu'en plus, la volonté vient du cerveau, mais l'intention vient du cœur. Donc, il y a quand même...
L'intention vient de ce que vous êtes en réalité. Mmh. Hein, ce que vous êtes en dehors du corps biologique. L'intention, c'est ça. Mmh. Ouais, bon. Vous comprenez bien les choses.
Ouais, ouais. Bon, le quatrième, oui, il est hard, mais déjà le deuxième et troisième aussi, quand même. Hein.
Mais à la base, fondamentalement, et là je rejoins quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, qui s'appelle Bullman, qui est un Américain. Mm-hmm. À la base, fondamentalement, il faut chasser une idée fausse, qui est de penser que nous, on est le corps biologique. Parce que si vous pensez que vous êtes le corps biologique et que vous allez endormir le corps, ben, vous allez penser que vous allez vous endormir.
Oui.
Voilà. Donc l'erreur permanente, on va dire réactivée en permanence, c'est de dire « je suis le corps ». D'ailleurs, on passe son temps à dire « bah tiens, je suis Marco Byrne, je suis un homme, j'ai tel âge, j'ai telle fonction, je suis malade, je suis triste, je suis gay, etc. » En parlant du corps biologique, on n'arrête pas de dire « je ». Donc on ne fait que reprogrammer ce truc-là en permanence. Cette chose qui est complètement inexacte, on n'est pas le corps biologique. Ouais. Les gens qui font des NDE, les gens qui font des voyages rapportent la même chose. Le corps, il est sur le lit, enfin, ou dans la salle d'opération, on s'en va plus ou moins loin, plus ou moins longtemps, et on retrouve le corps qu'on renfile comme une espèce de chaussette trop étroite.
Ouais, en fait, il faut qu'on arrive à différencier notre mental de notre conscience.
Oui, oui. Et il y a aussi un mental physique, donc une personnalité physique. On n'est pas cette personnalité-là. Alors, il y a des gens qui sont qui parlent d'éveil, etc., qui racontent beaucoup d'histoires autour de ça. Là, vous le vivez directement, hein, dans le corps du corps. Hein. Là, vous voyez que vous laissez une partie de la personnalité physique dans la structure biologique. Hein. Bon, j'appelle ça la viande de manière triviale, mais c'est vraiment un morceau de viande qui repose sur le lit et qui ronfle, souvent la bouche ouverte.
Bon. On va vite passer, parce que j'ai encore tellement de questions et on a encore si peu de temps. Alors peut-être qu'on pourra en reparler dans un voyage cette nuit. Sait-on jamais, hein. Moi, je vais essayer.
Ah, en pleine conscience.
Mais alors là, il faudrait partager.
Oui, mais après, je vous raconte. Oh.
Bah, faites-le comme ça, vous aurez une super soirée à raconter à vos auditeurs.
Quand j'aurai franchi ce cap, croyez-moi que même vous serez au courant.
Mais franchement, tu sais, il n'y a rien qui me fait le plus plaisir. Je vais vous dire quelque chose. La seule chose qui m'arrache des larmes, quasiment, en ce moment, c'est quand un voyageur réussit à voyager, quand une personne qui essaye y arrive et qui m'appelle le lendemain matin, qui m'adresse un message en disant « Salut Marc, j'ai réussi cette nuit ».
Ah, oh, c'est génial. C'est génial. J'avais d'autres sujets. Je voulais parler d'autres choses. J'aurais voulu parler aussi de Lucia et Pandora. J'aurais voulu... Est-ce qu'on peut, par contre... Parce que, si vous nous le permettez, ce serait très sympa qu'on puisse refaire un numéro pour pouvoir peut-être approfondir certains points et des questions que je n'ai pas eu le temps de poser. Mais est-ce qu'on peut parler rapidement de votre livre?
Oui, lequel, le premier, hein.
Oui, le 0,001%.
Alors, en fait, très rapidement, en fait, quand j'ai écrit ce livre, c'était à la demande d'un éditeur, Christelle Sauval.
Oui.
J'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre et puis de trouver un éditeur. C'est lui qui a insisté pour que j'écrive. Donc, c'est un livre de témoignage, hein, qui est une espèce de palette d'expériences où j'ai raconté de manière journalistique, hein, c'est-à-dire par le menu, avec beaucoup de détails, des choses sur la réincarnation, c'est-à-dire comment je me suis remémoré. Alors je donne un exemple très très précis, c'était une vie en Grèce il y a 25 siècles. Je donne tous les détails de comment la remémoration est arrivée, comment je suis allé sur place, comment j'ai vérifié les trucs, les machins, et tout. Voilà. Vous voyez comment j'ai retrouvé l'endroit. Donc voilà, il y a tout un chapitre là-dessus. Ensuite, je donne tous les détails aussi sur comment la capacité à voir l'aura et le champ d'énergie est arrivée. Je donne tous les détails. Ça s'est produit exactement comme ça, comme je l'ai écrit. Voilà. Et je parle de voyageurs du corps. Alors, par contre, j'explique pas comment on fait dans ce livre-là, comment on fait le voyageur du corps, parce que j'ai écrit une époque où je me disais, bon, je raconte, mais bon, de toute façon, il n'y a que les voyageurs qui vont comprendre ce truc.
Oui.
Et les autres, bon, voilà. Il ne m'est pas venu à l'idée d'expliquer comment faire, parce qu'à l'époque, je pensais que c'était pas possible d'expliquer.
Non, mais bon, vous restez quand même dans cette lignée de vouloir informer.
Oui, c'est de l'information, parce que j'aurais aimé être informé.
Ouais.
Pourquoi j'ai écrit ce livre sur la demande de Christelle Sauval? Parce que, encore une fois, moi, j'aurais bien aimé l'avoir, avoir ces informations quand j'étais petit. Franchement, ça aurait changé le début de ma vie.
Ouais.
Franchement.
Bon.
Donc, voilà. Donc, c'est un espèce de patchwork de c'est principalement des faits vécus, hein, de la télépathie, des choses extraterrestres, parce que, bon, ouais, c'est aussi ça qu'on comprend, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, on n'est pas tout seul non plus sur cette planète. Et ces histoires d'ovnis et tout ça, et d'extraterrestres qui se trouvent sur Terre, sont totalement vraies. Voilà. Elles ne sont pas un peu vraies, elles sont totalement vraies. Mais ce qui est étrange, c'est que la plupart des gens ici ne sont pas au courant. Alors que s'ils se donnaient la peine de chercher, même sans capacité, même sans voyageur du corps, ils arriveraient à cette évidence-là. C'est réel. Vous êtes peut-être au courant.
Ceux qui s'intéressent à ça, ils sont au courant.
Oui, bien sûr.
Ils sont au courant, mais il y a bien plus que des preuves, style appareil photo et tout ça. Il y a une quantité de preuves. Moi, j'en ai cherché un peu, entre guillemets, quand j'ai compris le phénomène. J'ai voyagé un peu. Des preuves, j'en ai vu des monceaux. Il y en a eu trop.
Voilà. Oui, mais c'est vrai que, bon, d'une personne à l'autre, le message est dit autrement. Et des fois, on comprend mieux par... tel biais par telle personne, et même si le message reste...
Si les gens savaient, mais moi je commence le bouquin, vous voyez, en disant il y a deux choses importantes que vous devez savoir, mais vous allez le savoir que si vous êtes déjà au courant. C'est premièrement, vous êtes immortel, vous êtes éternel même, mieux que ça, vous êtes éternel, et deuxièmement, on n'est pas tout seul dans l'univers, très loin de là, et on n'est pas tout seul non plus sur cette planète. Donc voilà, c'est ce que j'ai appelé les deux principaux sujets du bouquin. Voilà, ça... Si vous savez ça, moi je ne parle pas de la croyance, hein, si vous savez ça, toute votre vie, toute votre vision de tout change radicalement.
J'ai hâte de le lire.
Quel beau programme.
Puis moi je ne suis pas toute seule dans ma tête, est-ce que ça compte?
Alors Lucia Pandora, vous m'avez posé la question en deux mots. C'est des technologies de neurostimulation. Je vais parler de Lucia parce que la première lampe a été inventée par deux Autrichiens, deux médecins autrichiens, dont l'un avait fait une NDE quand il était petit, il avait 8 ans, le psychologue clinicien. Donc évidemment, sa NDE l'a tellement marqué qu'il a toujours pensé. Donc ça l'a fait intéresser au phénomène, parce que quand vous avez fait une NDE, vous ne pouvez plus poser la question de Dieu ou de l'existence de l'âme après la mort. Hein. Vous n'êtes plus dans la croyance. Donc il s'est dit, ce garçon-là, et moi je connais les gens de l'équipe Lucia, il s'est dit, mais comment est-ce que je pourrais donner une idée aux autres de ce que j'ai vécu? Et donc les technologies de neurostimulation ont été connues déjà depuis des siècles, mais les développements technologiques qui ont permis de faire un outil quand même beaucoup plus performant, comme les ordinateurs, n'ont pu être créés qu'à partir du moment où on avait des microprocesseurs, mais avant on avait des bouliers quand même, ça servait à compter aussi. Hein. Mais un ordinateur fait fondamentalement la même chose, sauf que le résultat est complètement différent. Voilà, Lucia, c'est ça, ça a été créé en 2009, c'est sorti en 2009, et ça modifie l'état de conscience sur 19 personnes sur 20. Moi j'ai fait des statistiques sur des centaines de personnes, ça fonctionne sur 19 personnes sur 20. Voilà. La question c'est, est-ce que grâce à Lucia ou Pandora je peux faire un voyageur du corps? Je réponds non. Voilà. Mais non, j'arrête pas de le répéter. Non. Par contre, ça va vous donner d'autres capacités. Vous pouvez éventuellement être beaucoup plus détendu, faire des extensions d'énergie et avoir de la vision à distance, être plus sympa avec vos petits camarades autour de vous. C'est un tas d'applications. Mais moi, j'utilise absolument pas en termes de thérapie. J'utilise comme une espèce de starter pour changer l'état de conscience. C'est équivalent pour moi à une semaine de méditation, de faire une heure de Lucia de Pandora. Et il y a des gens qui ne supportent pas. Donc, c'est une personne sur 20 ou à qui ça fait rien du tout. Mais c'est quand même assez bluffant. Hein. Donc ces gens-là, ils ont inventé une technologie, mais qui n'est pas sortie du néant, hein, parce qu'on connaissait les effets de la lumière sur le rythme du cerveau et l'état de conscience. Il y a eu des travaux qui ont été faits au cours du XXe siècle. On a découvert petit à petit les rythmes, les rythmes alpha, les rythmes bêta, enfin tous ces trucs-là. Et on s'est rendu compte que des lumières périodiques allaient changer les rythmes du cerveau. Vous voyez, donc c'est des développements technologiques qui sont faits avec les LED. Les LED qui pouvaient avoir ce qu'on appelle un signal carré, c'est-à-dire on pouvait parler au cerveau d'une manière beaucoup plus précise, avec une écriture beaucoup plus fine.
D'accord.
Et bien on a vu les résultats, ben on voit des résultats qui sont très étonnants. Et moi j'ai testé ces technologies, c'est pas moi qui les ai inventées, il y a des gens qui pensent que je les ai inventées, il y en a qui me reprochent de les commercialiser. C'était pas mon intention au début, j'avais acheté une lampe qui avait fait un effet extraordinaire, je l'ai testé à mes amis. Et à l'époque, ça coûtait cher, ça coûte encore plus cher maintenant. J'ai acheté pour moi, vous voyez.
Ouais.
Et ça m'a coûté quand même plus de 20 000 euros, cette affaire-là. Hein. Donc, il fallait vraiment que ce soit impressionnant. C'est le prix d'une voiture. Hein. Donc, j'ai acheté pour moi. Et puis, il s'est trouvé que j'ai fait quelques séances à droite et à gauche et que les gens m'ont demandé de faire des séances. Et toute ma vie a changé. Parce que moi, j'avais des activités qui n'avaient strictement rien à voir avec tout ça. Je n'étais pas thérapeute, je n'étais pas hypnothérapeute, je n'étais pas psychologue. Rien de tout ça. Rien.
Marc, je suis désolée, il va falloir que je vous coupe parce qu'il nous reste 3 minutes pour rendre l'antenne. Et si vous saviez, je voudrais pouvoir continuer encore des heures et des heures.
C'est très frustrant.
Oui, vraiment, là pour le coup, j'ai une émotion qui est... Oui, je suis frustrée.
On a juste défloré le sujet. Oui. Mais vous savez ce qui est important, je vous l'ai dit. Ce qui est important, c'est que les gens soient au courant et qu'on leur explique. C'est pour ça que je vais faire une vidéo dans quelques temps. Elle sera gratuite, hein, évidemment. Je veux qu'un maximum de gens connaissent le phénomène et puissent expérimenter par eux-mêmes et arrêtent de croire tout ce qui se raconte sur Internet parce qu'il y a des... Internet, c'est franchement fabuleux. Mais il y a un paquet d'ordures qui circulent là-dessus. Mmh. Mais c'est...
On en reparlera vraiment parce que il y a vraiment beaucoup à dire.
C'est que le début du sujet.
Voilà.
Donc... Oh là là, mon Dieu, il y a le pire et le meilleur. voilà. Et comment faire le tri? Eh bien, voilà. Bon, je vais contribuer à ça à ma façon, en faisant une vidéo. Expérimentez vous-même.
On va expérimenter et puis on va suivre ça de très près. En tout cas, si nos auditeurs souhaiteraient pouvoir avoir plus d'infos, je leur conseille votre site. MarcoBurn.com.
Il vaut mieux la page Facebook.
Bon, la page Facebook.
Il y a plus de choses, c'est MarcoBurn. Et il y a aussi une page Facebook fermée pour les gens qui sont. Alors bon, elle est pas visible, qui s'appelle les explorateurs.
Oui.
Mais qu'on a ouvert il y a à peu près un an, mais qu'on a refermé bien vite parce qu'il y avait déjà trop de monde.
D'accord.
Et on essaie de trier pour qu'il y ait des gens qui soient sympas, qui s'intéressent sincèrement aux sujets qui sont développés dans cette page-là et qui évitent de s'insulter les uns les autres parce qu'Internet aussi, c'est quand même chaud.
On vous dit un énorme merci. Je vous transmets le podcast rapidement.
À très bientôt.
Oui.
Rappelez-moi quand vous voulez.
C'est avec plaisir. Alors oui, j'y manquerai pas. Merci beaucoup, Marc.
Merci.
Allez, bonne soirée.
Merci également.
Merci à vous également.
Au revoir. Nous allons être coupés dans quelques millièmes de seconde, donc on m'entend plus du tout au micro. Donc, hop.
Si, c'est toi, c'est pas grave.
Si. Vas-y. Bon, alors c'est très bien. Chers amis auditeurs, on se retrouvera.
Bonnes vacances.
Voilà, très bonnes vacances. Le programme qui suit, c'est le privé à Babylone. Au passage, on fait un énorme bisou à Gonzalo. Salut les copains. When you do your fun.
arrivée à Babylone.
Merde, comment ça marche ce matériel de merde?
Encore un indice à la con.
Shut the fuck up, Donnie.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Oh, ça mitraille sec.
C'est toujours mieux que ZZ Top.
ZZ Top.
Vous avez vos papiers ?
Shut the fuck up.
Vous avez déjà suicidé un militaire ?
Non. Pas à ma connaissance.
Alors vous connaissez rien à l'amour.
It's okay with me.
Un privé à Babylone.
Après deux mois de confinement au soleil, eh bien le déconfinement lui s'effectue dans le froid et sous la pluie. Putain, 383e enquête du privé, c'est moi Gonzalo, aujourd'hui sur les chemins de Babylone, une enquête de nouveau participative, collaborative, un privé toujours chez lui, dans son jardin, puisque Principa Actif a rouvert ses locaux, mais on est limité en nombre de personnes dans le studio, et comme le privé il aime bien être accompagné. Alors aujourd'hui... On notera le retour de Yo-Yo Man, de Mr. Guy, de Sister B, de Patrick Benet, et de Colin pour une enquête sur la musique noire américaine. Comme je le disais la semaine dernière, c'est un petit peu le moment quand même de se pencher sur la question. Je lance les dés tout d'abord avec Esther Marrow, une dame qui a débuté dans les années 60, qui venait du gospel, hein, qui a appris à chanter dans les églises, pour évoluer ensuite vers la soul.